Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour vous parler de la réalité des femmes et des défis inhérents à leur quotidien. Ça permet aussi d'offrir un éclairage nouveau sur des sujets différents d'une semaine à l'autre, à l'aide d'expériences personnelles, d'analyses psychologiques et émotionnelles, sans oublier les statistiques parce qu'on sait que les chiffres sont toujours importants dans tout ce qu'on vit. Je ne pourrais débuter cette émission sans faire un hommage à une grande dame qui nous a quittés le week-end dernier. Alors, il s'agit de Ruth Bader Ginsburg. Elle nous a quittés à l'âge de 87 ans d'un cancer. Elle était juge à la Cour suprême des États-Unis et c'était une grande dame qui défendait les droits des femmes et aussi des êtres humains. Donc, c'est une grande perte, une dame extrêmement importante pour nous, les femmes. Alors, je ne voulais pas passer sous silence ce départ. Ce qui m'amène à vous parler aussi du thème de notre semaine, qui est aujourd'hui question de changer de carrière, changer de vie. Alors, je reçois trois femmes courageuses aussi qui ont décidé de tout balancer pour changer de métier. Donc, trois femmes, trois destins, trois revirements. À quel âge et de quelle manière elles ont ressenti un ras-le-bol? Comment la profession, la première, s'est installée et comment elles ont reçu un appel pour passer à une deuxième profession? Qu'est-ce qui les a poussées à tout remettre en question? Quelles ont été les conséquences dans leur vie privée? Parce que de changer de carrière comme ça, ça a des conséquences sur la famille, les enfants, le conjoint. Alors, je vous propose trois témoignages pour nous aider à mieux comprendre et à accepter le fait que tout est possible.
J'ai oublié combien il faut s'aimer pour continuer de vivre, pour continuer de vivre. D'une gamine qui mine de rien se gratte un chemin vers l'âge adulte, vers l'âge adulte. Mais au clair de la honte, je n'ai plus de feu. Ouvrez-moi la porte, je n'ai plus de feu. Ouvrez-moi la porte. Le triangle de la mort, le triomphe de mine d'or, là où l'amour jette des sorts. Combien mes météores servis sur un plateau d'or, et puis la plage, et puis l'eau, et puis la boue, et la vodka. Y'a pas de quoi en faire un cas, la vie c'est facile comme ça. Quand on a rien d'autre à faire, on s'ouvre l'univers. Et puis tant pis si on crève l'estomac à l'envers. La musique me glisse entre les doigts, et dans mon cahier soleil, soleil, ton absence est un monastère, j'y entre comme une prière. La lune est mon bonnet de vie, sans lui des cyclopes me suit.
Je suis prisonnière de la nuit et à mon humble ennui, je devrais revenir vers toi. Et l'air me manque à la cabane du pêcheur. La mer est montée, il devait être 16 heures. Le train était passé et puis le calme retrouvé. On s'ouvrait une bouteille de rhum et puis ton ami le vieil homme racontait que petit bonhomme, il venait souvent par ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas, pour y pêcher l'anguille. Mais jamais, oh non, jamais, ni amener les filles. Mais jamais, oh non, jamais, ni amener les filles. La musique me glisse entre les doigts et dans mon cahier, j'écris. Entendez-vous les oiseaux chanter, chanter. La nature fait son chemin dans le grand corridor. Entendez-vous les oiseaux chanter, chanter. Et pouvez-vous les imiter car je n'entends plus rien. Entendez-vous les oiseaux chanter, chanter. La nature fait son chemin dans les grands corridors. Entendez-vous les oiseaux chanter, chanter. Et pouvez-vous les imiter car je n'entends plus rien.
Avec moi, Marie-Josée Blanchard, présidente et éditrice de Performance Éditions. Bonjour Marie-Josée Blanchard, merci d'avoir accepté notre invitation.
Salut Marc, ça me fait tellement plaisir, surtout avec toi.
Oh, c'est gentil, c'est réciproque. Écoute Marie-Josée, tu es présidente éditrice, mais tu n'as pas toujours fait ce métier-là.
Ben non, toi.
Qu'est-ce que tu faisais?
J'ai été une trentaine d'années dans le monde de la coiffure. Alors, je travaillais, j'avais un centre de coiffure chez moi, je travaillais de la maison et j'ai fait ça pendant 25-30 ans. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là. Par contre, comme je te disais en pré-entrevue, j'ai eu l'impression, avec toutes ces années, de faire un genre de bac en psychologie.
Ah oui!
Dans mon salon de coiffure.
Oui.
Parce que la coiffeuse n'est pas juste une coiffeuse pour une personne, surtout quand ça fait longtemps. Elle devient vraiment sa confidente.
Oui.
Puis je te dirais qu'après plusieurs années, ben, j'en ai eu un peu mon voyage.
J'étais tannée de la psycho.
J'étais tannée, fait que j'ai fait un bac en psychologie dans mon salon de coiffure. J'ai adoré ce que j'ai fait. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais à un moment donné, est arrivé une période de ma vie où je me cherchais.
On n'ira pas là tout de suite. Moi, je veux savoir comment qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allée dans la coiffure?
Bien, écoute, tu vas trouver ça drôle, j'avais 12 ans. À l'école, je courais après mes amis dans les rangées de cases avec des ciseaux à colle pour leur couper le toupette. Là.
Non.
J'aimais ça. Ça a toujours été...
Ça me surprend pas, je sais pas pourquoi.
Ça a toujours été une passion pour moi. Le monde de la coiffure, les cheveux, les beaux cheveux, la coloration, la coupe de cheveux.
Il y avait quelqu'un dans ta famille? Ta mère?
J'ai... Okay. Non, ma mère avait un frère qui est décédé aujourd'hui, qui a été coiffeur dans des très grands salons en Australie.
Oh, wow.
Puis moi, j'étais comme en admiration devant lui. Il était en Australie, il coiffait dans des gros, gros salons de coiffure. Puis c'est de là que m'est venue cette passion-là. Mais chez moi, on est quatre enfants, puis on a tous un côté artistique.
OK.
Alors, ça, c'est le côté artistique qui m'habitait.
Oui, puis tu n'avais pas prévu qu'il fallait que tu sois psychologue avec ça.
Non, je n'avais pas prévu d'aller faire mon bac avant de le faire pendant que je coiffais mes clientes et mes clients. Mais j'ai vraiment adoré. Ça m'a manqué même par la suite quand j'ai arrêté. Ça m'a tenté même d'y retourner. Mais là, j'ai dit, à un moment donné, là, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai fait autre chose.
C'est quoi le point de rupture? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour dire là, c'est assez. Là. Ça fait combien de temps qu'on est tanné?
Bien, ça a commencé avec le corps, parce que être debout des heures et des heures, puis tu vieillis, là, j'étais dans la quarantaine, le temps des fêtes, c'est épouvantable, les rendez-vous, puis les heures, les innombrables heures que tu fais. Tu finis le 24 décembre, là, toi, le party, là, il est bien, bien loin, là. Tu as le goût d'avoir les deux pieds dans un bucket d'eau chaude. Les deux pieds dans le bac à eau chaude, puis le stimuli massage pour les pieds, là, t'en peux plus, t'es fatigué. T'as le cerveau à bout aussi, parce que tout ce que t'entends, tout le monde, la musique, puis tous les autres quoi. Quand je travaillais en salon, il y avait d'autres coiffeurs aussi. Le bruit, c'est exténuant. Puis par la suite, ça a commencé par le physique. J'ai commencé à faire une bursite dans une épaule, bursite tendinite qui ne guérissait pas. Puis là, c'est difficile
donc,
de coiffer.
Ton corps t'a parlé.
Oui, puis par la suite aussi, ça a été avec d'entendre toutes les histoires de tout le monde.
Okay.
J'en pouvais juste plus d'avoir ça directement dans mes oreilles, de retourner chez moi, puis d'avoir à vivre la peine, les décès, la peine de tout le monde qui me racontait toutes leurs affaires.
Puis là, qu'est-ce que tu fais quand t'es tannée? Tu t'en parles à ton chum, t'en parles autour de toi?
Ça a duré un an. Ça a duré un an. Oui, okay. Ah oui, donc, une grosse année.
C'est sûr que tu as été comme en réflexion pendant une année.
Oui. Okay. Oui, oui. Puis là, ma réflexion...
Après, c'est quoi le pont?
Le pont, bien, pendant une année, je te dis, même, j'en avais de la misère à dormir parce que là, je me disais, il faut que je change de carrière. Puis là, j'ai 46 ans, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Vers quoi je vais me diriger? Je retourne à l'école. Moi, mon rêve ultime dans la vie avant d'être coiffeuse, c'était d'être avocate. Puis, bon, je suis partie vers le monde de la coiffeuse parce que j'avais un talent puis ça m'interpellait beaucoup. Mais j'aurais dû peut-être suivre mon instinct puis aller, un autre instinct que j'avais d'aller suivre un cours pour être avocate. Mais c'est ça. Je me disais, ben je vais changer de carrière puis tout ça. Puis pendant une année, ben ça m'omnibulait. Là. Je pensais rien qu'à ça. Je te dis, j'en avais de la misère à dormir puis j'achalais beaucoup mon chum. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais faire?
Qu'est-ce qu'il en pensait?
Moi, j'ai un mari qui est extraordinaire puis qui me pousse toujours il est toujours en train de me pousser à l'action puis à être mieux puis à aller de l'avant. Alors, il m'a dit, moi, je t'épaule. Si tu veux retourner faire un cours en droit, ben vas-y. Parce que j'avais déjà commencé. Vas-y, puis je t'épaule. Ça veut dire, je vais... Oui. Parce que là, si t'es à l'école, là, tu peux pas ramener beaucoup d'argent à la maison. Puis lui, il m'épaulait. Puis d'un autre côté, ben j'avais l'édition qui me tentait parce que mon père et ma mère ont été éditeurs pendant 25 ans avec une très grande maison d'édition au Québec. Alors, j'avais ça me tiraillait, là. Est-ce que je m'en retourne dans l'édition ou bien je m'en vais suivre un cours pour être avocat?
Puis qu'est-ce qui a fait que... de pencher sur le bord de l'édition?
Bien, peut-être le 25 ans que mon père a été dans ça avec ma mère, qui ont eu leur maison d'édition, c'est probablement ça qui m'a tirée parce que, bon, c'est pas parce que je savais que je serais bonne tout de suite, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais j'avais l'énergie du monde de l'édition autour de moi.
OK.
Alors, c'est ce qui m'a...
Puis peut-être que les études te tentaient moins.
C'est quelque chose, là, retourner étudier à 46 ans pour devenir une avocate. Je savais que j'avais 5 à 7 ans d'études à faire. Je voulais faire le common law. Je voulais, tu sais, j'en avais pour au moins 7 ans. D'accord. Fait que là, je me disais, je vais me ramasser à 53
ans. Alors là, tu t'es dit, allez hop, l'édition.
Oui,
allez hop, on commence comment quand on a coupé des cheveux toute notre vie, puis là, faire des livres?
Ouais, alors j'ai tout vendu ce que j'avais. J'ai laissé partir ma clientèle. Je les ai référés chez d'autres coiffeurs. Puis j'avais un paquet d'amis qui étaient coiffeurs. Je les ai dirigés ailleurs. J'ai dirigé les gens ailleurs. Après ça, j'ai tout vendu ce que j'avais. Puis là, j'ai fermé la porte, j'ai mis la clé dans la porte. Ça, c'est ça le début. Et puis pour l'édition, ma mère avait commencé à faire... Ma mère, vu qu'ils ont été dans ça pendant 25 ans, ils ont eu une coupure de 6, 7, 8 ans, 6 ans. Ma mère avait commencé à faire des traductions de livres d'amis des États-Unis, puis tout ça. Fait que je la voyais faire. J'ai comme repris ce qu'elle avait un peu débuté pour poursuivre ma voie à moi, puis partir la maison d'édition.
OK.
Puis là, c'est sûr que je me suis sentie comme si un parachute, pouf, là, t'atterris sur une chaise dans un bureau. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'avais même pas de système de comptabilité pour payer des royautés. J'avais pas de comptable. J'avais rien, là. J'avais rien. Alors, il a fallu que je pose des questions à des gens autour de moi. Puis j'ai eu deux anges dans ma vie qui sont arrivés. Je leur dis toujours... c'est extraordinaire. Un s'est installé à ma droite, puis il m'a pris avec son aile gauche d'ange, et l'autre de l'autre côté. Alors, j'ai été enveloppée par une femme et un homme qui m'ont tout appris du monde de l'édition.
Donc, il y a quelqu'un qui veillait sur toi.
Il y a quelqu'un qui veillait sur moi.
Et ça t'a pris combien de temps avant d'être à l'aise ou de dire, moi, je roule, je regrette pas mon choix?
OK.
C'est combien de temps?
Je peux te dire que j'ai pleuré beaucoup. En bon québécois, j'en ai bavé une fois. J'en ai bavé parce que j'ai dû tout apprendre. Je dis que j'ai fait un MBA de l'édition dans mon bureau. Je disais, dans les tout débuts, je disais, mon Dieu, je me sentais comme un petit poisson d'eau douce qui nage dans une mare de requins. Puis, il y a une fille qui m'a été présentée, sa compagnie s'appelait Entreprenez-vous. Donc, elle est venue m'aider à m'entreprendre. Et cette fille-là m'a tout appris de la business, pas de l'édition. L'édition, ça a été les deux autres personnes. Mais Sylvie Valois, qui est décédée aujourd'hui, elle m'a tout montré comment décoller mon bureau, mes affaires. Mm-hmm. Alors, j'ai eu cette grande chance-là. Puis, ça m'a pris... écoute, ça va faire 10 ans l'année prochaine.
C'était ma question.
10 ans, en 2021. Bravo. Je vais faire un beau gros party avec tous mes auteurs. Et puis, ça m'a pris un bon 7 ans. D'accord. Avant de dire, OK, maintenant, je me sens plus comme un poisson d'eau douce qui nage avec un requin. Je me sens même pas un requin qui nage avec les requins. Je me sens comme un dauphin maintenant. qui nagent dans cette mer-là.
Est-ce que toi, tu t'encourages les femmes qui veulent changer de carrière, qui veulent faire un...
Ben oui. Écoute, c'est tellement important. J'ai toujours dit, il te faut, si t'es en couple dans la vie, il faut un conjoint que t'aimes puis que t'admires. Après ça, parce que t'es au moins, tu sais, la tarte de la vie, 8 heures par jour couché sur un matelas, aie un bon matelas, puis aie une job, aie quelque chose qui te passionne parce que t'es un autre 8 heures là.
Mm-hmm.
Alors, c'est tellement important. Si tu te sens pas bien dans ce que tu fais présentement, ben réfléchis, puis va de l'avant, puis va ailleurs pour être bien jusqu'à ta retraite.
Quel beau témoignage. Merci beaucoup, Marie-Josée
Blanchard. Ça me fait bien plaisir.
Alors, je rappelle, vous êtes présidente et éditrice de Performance Édition.
Oui.
Et on peut aller voir toute votre programmation.
Sur notre site web.
Oui, qui est?
www.performance-edition.com.
Parfait. Mais un immense merci, Marie-Josée.
Ça me fait plaisir, Marthe.
Je vais au cinéma, je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous pourvu que ça me parle pas de toi et moi. Et là je suis bien tombé, je suis bien tombé, tu vois. C'est l'histoire d'un type qui meurt pour ses enfants. Enfin je crois, j'ai pas suivi. Cette fille au premier rang, une fille toute seule qui me fait l'œil en sortant. C'était pas innocent,
non,
pas innocent. Le thème du générique, place Clichy sous la pluie.
Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai marché.
Oh, j'ai marché.
J'ai pris la rue des
Dames,
j'ai pris la rue des Batignolles, le boulevard des Batignolles. J'ai marché. J'ai pris la rue de Turin, la rue de Berne, la rue de Berlin,
j'ai
la
marché.
Rue de Moscou. J'ai pris la rue de Moscou. Presque place Clichy. Et là,
monsieur, elle a commencé tout bas. C'est que tu avais fait tomber ça.
Ah bon? Ah ben merci. Il est cassé? Non, si il est cassé. Merci mademoiselle. Ouais, bonne soirée.
Je vais au cinéma.
Je vais au cinéma d'Arnaud Florent Didier. Ce qui m'amène à ma prochaine invitée. Alors, bonjour et bienvenue, Caroline Lalande. Vous êtes présidente de Mosaïque, un cabinet de services financiers, mais auparavant, vous étiez dans le domaine du cinéma.
Bonjour, Marthe.
Ça va bien, Caroline?
Très bien, merci.
Alors, le cinéma, comment on arrive au cinéma? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une passion?
La grande question, hein? Mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler sur les plateaux de tournage. C'était une passion. Il n'y a jamais été question pour moi de faire autre chose. Donc, c'était un rêve d'enfance. Et à un certain moment donné, bon, on vieillit. Alors, on fait des choix au niveau des études et je suis allée complètement à fond la caisse. Et puis, je suis allée faire mon baccalauréat en cinéma à l'Université Concordia.
Ah, carrément?
Oui.
Donc, vous avez fait du cinéma pendant combien d'années?
J'ai vécu le rêve, si on veut, pendant environ 10 ans. Donc, j'ai fait mes études. Ensuite, c'est toujours la question, comment on fait pour rentrer dans un domaine qui semble si fermé? Mm-hmm. Concours de circonstances, j'ai fait ma place. J'ai navigué à travers ça, à travers les années. C'était extraordinaire. Et j'ai fait différents postes. Je travaillais toujours à l'arrière-plan. Donc, j'ai travaillé principalement dans les bureaux. Pas tant glamour, mais c'était... C'était ce que j'aimais faire, travailler avec les gens, l'organisation, voir comment on monte un film de A à Z. Je trouvais ça complètement fascinant. Et puis un jour, tranquillement, le malaise a commencé à s'installer. Puis je me suis posé la question si au final, c'était ça que je voulais pour le reste de mes jours.
Mm-hmm. Donc, vous avez travaillé avec les grandes vedettes?
Oui.
Parce que vous travailliez sur des films, je pense, américains qui étaient tournés ici.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu, le privilège de côtoyer des gens très connus et de découvrir un peu les facettes de tout ça.
Voulez-vous nous en nommer un ou deux?
j'ai jamais été forte sur raconter un peu qui on rencontrait ou quoi que ce soit. Je dirais qu'il y a des belles rencontres. De façon surprenante, souvent les gens très connus, c'est pas nécessairement là où on fait les meilleures rencontres. Il y en a qui sont surprenants. Il y a des gens, des fois, qu'on a des préjugés puis que finalement, on découvre une personne extraordinaire et vice-versa. Mais je dirais plutôt, moi, ce que j'aimais particulièrement, c'était le côté très proche des techniciens, c'était le côté familial.
Oui, d'accord.
Donc, quand on commence sur un plateau de tournage, on devient une famille temporaire.
Pendant des mois,
oui. Oui, mm-hmm. Puis on le vit de façon très intense jusqu'à ce que ça se termine.
Et le malaise, vous parliez du malaise, quel est-il? Qu'est-ce que c'est? Comment on ressent? C'était quoi le malaise?
Bien, je pense que tout le monde... en fait, la vie est faite de différentes étapes. Et on évolue. Et puis moi, ce qui est arrivé, c'est simple, hein? Ça s'appelle l'amour.
Ah!
Donc, l'amour est entré dans ma vie.
Mm-hmm.
Et je dirais jamais que j'ai fait des changements pour mon mari. Mais mon mari m'a fait évoluer vers une autre personne. Donc, l'amour a changé ma façon de voir les choses. L'amour a changé la façon dont je voyais ma carrière. Et ce qui est arrivant, en fait, j'ai eu des enfants. Et puis là, tout à coup, le désir de passer du temps avec mes enfants est devenu plus fort que le désir de vivre ma vie en cinéma.
Mm-hmm. J'imagine, au niveau des horaires avec des enfants, ça doit être compliqué aussi.
Oui. Je me souviens très bien, je travaillais sur un film, que certains connaissent peut-être, le 300. Et j'étais enceinte de mon premier garçon. Puis je me souviens, j'ai un de mes collègues qui était venu me voir, puis il m'avait dit, « Caroline, tu vas voir, toutes les premières fois que tu vas manquer, tu ne les récupéreras pas. »
Oh, ça dramatise, ça!
Oui, mais je dois admettre que sur le coup, j'avais plus ou moins bien compris.
Mm-hmm.
Et quand mon fils est né, j'ai fait d'autres tournages et puis j'ai réalisé que je me levais le matin, je partais travailler, mon fils dormait. Mm-hmm. J'arrivais le soir, mon fils dormait.
Mm-hmm.
Et c'est là que j'ai compris que les premières fois d'être là, d'être physiquement là et mentalement là avec ma famille devenait plus important que tout le reste.
Mais pourquoi les finances? Qu'est-ce qui peut se passer dans une tête pour dire « je passe du cinéma aux finances » C'est quand même aux antipodes.
Oui, bien tout à fait. Là.
Pourquoi les finances?
En fait, c'est pas tant aux antipodes, surprenamment. Quand on fait des films, il y a tout un côté qui est très, des fois je dis quasiment paramilitaire, donc très structuré, très financier aussi. Donc, c'est pas si éloigné du monde des finances, d'une certaine manière. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je venais d'accoucher de mon deuxième garçon. J'en ai trois au total,
oui.
En passant. Je venais d'accoucher de mon deuxième garçon et puis je me posais la question. Je commençais vraiment à voir que pour moi, c'était pas possible de continuer comme ça, de contrat à contrat. Parce que même si je travaillais 6 mois puis j'étais 2 mois à la maison, le 6 mois que je manquais devenait trop lourd pour moi à porter. Et puis, il y avait des conséquences aussi sur ma vie avec mon conjoint, évidemment. Donc, on recevait l'actualité à la maison. Et puis, je me souviens cette fois-là, sur la revue, c'était marqué « Les 10 professions de l'avenir ».
Et il y avait les finances.
Et il y avait conseiller financier.
D'accord. Ça, tout de suite, ça vous a allumé? Ça a été...
Mais en fait, c'est mon conjoint qui a dit « Caroline, tu le fais naturellement pour tout ton entourage. Pourquoi t'en ferais pas une carrière? »
OK.
Et dans le fond, j'ai profité du fait que j'étais enceinte de mon 3e et après ça, le congé de maternité pour faire le plongeon et là, aller tout azimut vers une toute autre carrière.
Donc, les études et tout et tout.
Oui.
Puis après, vous avez travaillé pour des institutions financières, je crois.
J'ai commencé ma carrière pour une compagnie où je travaillais, puis je pouvais seulement représenter un assureur. Mm-hmm. Donc, c'est une belle place pour commencer, mais rapidement, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise dans le monde du courtage. Mm-hmm. Donc, j'ai fait la transition vers travailleur autonome, et puis éventuellement, j'ai fondé mon cabinet. Puis aujourd'hui, j'ai une très belle clientèle de professionnels, de familles et d'entreprises.
Mm, ça fait combien d'années vous avez monté votre clientèle? Que vous avez développé votre entreprise?
Ça va faire bientôt 10 ans.
10 ans, quand même. OK, ça ressemble un peu à mon autre invité. Très intéressant. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que vous allez terminer votre carrière dans les finances ou vous allez encore bifurquer?
La question est bonne. Je pense qu'on finit toujours par bifurquer. Par contre, cette fois-ci, je vais finir ma carrière dans les finances, j'en suis persuadée. Est-ce que mon travail va être le même? Est-ce que mon travail va évoluer à travers le temps? Fort probablement. De toute façon, je pense que c'est ça, l'être humain, c'est d'évoluer selon les situations. Mais définitivement, je suis heureuse avec ce que je fais. Ça correspond à ma vie. Mmh. Et puis, je pense bien continuer pour encore beaucoup d'années.
Merci beaucoup, Caroline Lalande, pour ce magnifique témoignage très, très, très inspirant. Alors, je vous dis que nous étions avec Caroline Lalande, présidente de Mosaïque, un cabinet de services financiers, et qui était au cinéma avant d'être dans les finances. Alors, restez avec nous. Nous partons pour une courte pause. Et puis, nous revenons au troisième bloc avec une invitée assez particulière, donc qui, elle, est passée du notariat à la médiumnité. Vous êtes toujours à l'écoute de Terre de femmes à Canalem avec Marthe Saint-Laurent. Nous sommes ensemble encore pour une demi-heure et ma prochaine invitée est assez fantastique parce qu'elle a un parcours complètement atypique. Imaginez-vous qu'elle est passée du notariat à la médiumnité. Donc, mais avant de la retrouver, nous écoutons une magnifique pièce de Martha Wainwright, Around the Bend.
I've been taking lots of pills and things. I've been seeing him again. There are things I've seen and done that I would not wish on anyone. Watch out for my creativity.
get those cards to wear.
Elle est devenue auteure de 8 ouvrages, elle est conférencière, formatrice spécialisée dans la compréhension de la naissance, de la mission de vie et de la mort d'un point de vue global. Elle était notaire auparavant. Bonjour Sylvie Ouellette.
Bonjour Marthe Saint-Laurent, ça va bien?
Ça va très bien et vous?
Oui, ça va très bien. Merci de l'invitation.
C'est un pur plaisir. Vous avez un parcours tellement atypique et nous sommes dans le thème de changer de carrière, changer de vie et j'ai pas pu faire autrement que de penser à vous. Alors, c'est fantastique de passer d'un métier aussi, cérébral, à un métier un peu plus ou complètement intuitif et créatif. Alors, on va essayer de comprendre comment on peut faire ça parce que c'est extraordinaire. Vous êtes un beau modèle. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené premièrement au travail de notaire?
Ah, ben écoutez, je pense que c'était un choix sans en être un à l'âge où on doit choisir d'aller à l'université. Je suis pas certaine qu'on a tous les bons repères pour faire un choix qui correspond vraiment à qui on est, hein, parce qu'on se connaît pas. Donc, il y a eu l'influence des proches par rapport à ce choix-là. Et moi, j'avais envie, en réalité, de m'en aller comme comédienne. Hein. Je voulais faire une formation en théâtre. Et mes parents m'ont grandement découragée de suivre cette formation-là. Et je les en remercie aujourd'hui, hein, parce que je pense que ça aurait été effectivement un très mauvais choix. Mais maintenant, ils m'ont dit, le droit, ça peut ressembler quelque part à être comédien, hein. Il faut être capable d'amener son point de vue, de parler en avant, d'avoir une posture, de défendre donc un point de vue, etc. Du coup, moi, ça m'a paru complètement logique, mais une fois que j'ai été assise sur les bancs de l'école, j'ai réalisé que ça avait rien à voir avec en réalité ce que je voulais faire. Mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout de la formation. Quelque chose m'incitait à terminer le projet, là.
Puis comment on fait pour rester dans un programme alors qu'on voit qu'il y a déjà un malaise en partant? On est quand même capable de se projeter sur le marché du travail?
C'est une excellente question. Et à l'époque, je ne me connaissais pas et je ne voyais pas à quel point je niais complètement ce que je ressentais. Et ce qui m'a amenée à persévérer sur des bases, bon, d'éducation, hein, on termine ce qu'on commence. L'autre base pour laquelle j'ai persévéré, c'était aussi la notoriété de la profession. De me dire, ah ouais, ben j'aurai quand même un bon bagage si je veux changer d'idée après, ben j'aurai toujours le loisir, mais au moins j'aurai un bon bagage. Et donc, ces deux éléments-là m'ont amené à persévérer, mais je vous dirais très honnêtement que tout au long de ma formation, j'avais toujours une petite voix qui me disait, tu feras pas ça toute ta vie.
Et bien, justement, vous avez fait ça pendant combien d'années?
J'ai pratiqué pendant 5 ans et je l'ai enseigné pendant 4 ou 5 ans aussi. J'ai enseigné le droit là à différents niveaux scolaires.
Et est-ce que vous aviez votre cabinet? Vous travailliez avec d'autres notaires?
J'ai travaillé 2 ans, mes 2 premières années de pratique, j'ai travaillé avec un notaire. Puis ensuite, j'ai ouvert mon propre cabinet que j'ai eu pendant 3 ans.
Et à quel moment exactement on se lève puis on se dit « c'est assez, je suis pas bien, faut que je fasse autre chose » ou « je suis appelée peut-être à faire autre chose » ?
Là aussi, c'est une bonne question et j'ai vraiment pas le mérite de m'être levée et de dire c'est assez. En fait, c'est la vie qui m'a arrêtée. J'ai fait un épuisement professionnel sévère. Évidemment, j'aimais pas ce que je faisais, donc ça contribuait énormément à miner mon énergie. Et donc, c'est le médecin qui m'a arrêtée de travailler. J'ai pris une pause pendant plusieurs mois et c'est en cours de pause que j'ai réalisé que je pouvais plus retourner. Une fois que j'ai été sortie de ce milieu-là, je me suis dit non, je peux plus continuer comme ça. Et là, j'ai eu l'idée d'aller faire un certificat en enseignement et de me dire, ben si je peux plus le pratiquer, je vais l'enseigner. Et j'ai réalisé en enseignant que j'aimais pas plus ça et que je pouvais pas être un bon professeur parce que pour enseigner, il faut être passionné et je l'étais pas du tout.
Donc, si vous aviez besoin d'une deuxième preuve, vous l'avez eue.
Tout à fait. Et ça a été quand même une preuve riche parce qu'elle était très formatrice, le fait d'aller me chercher des outils en enseignement. Aujourd'hui, ça me sert dans ce que je fais maintenant. Donc, c'était pas un chemin inutile, ni même un détour. C'était un parcours que je devais faire.
Oui, et puis vous étiez mariée à l'époque.
Oui.
D'accord. Oui. Est-ce que ça a créé des remous au sein du couple?
Ben en fait non, j'avais quand même un conjoint qui était très qui m'appuyait dans mes projets et c'est certain que de me voir malheureuse à ne pas faire ce que je voulais, c'était très inquiétant pour lui. Donc quand j'ai décidé d'aller enseigner, il m'a suivie dans ce cheminement-là. Il m'a appuyée, mais à 100%, ça, là-dessus, je l'en remercie encore aujourd'hui parce que je serais pas où je suis là si j'avais pas eu cet appui-là.
Et qu'est-ce qui vous a orienté, en fait, vers la médiumnité?
Là aussi, c'est pas moi qui a fait le choix, c'est la vie. Par des expériences difficiles, par un mal-être. Hein. Vous savez, je me suis cherchée pendant plusieurs années. Entre le notariat et la médiumnité, c'est vraiment écoulé beaucoup d'eau sous le pont et j'ai été pendant plusieurs années dans un mal-être, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir qui j'étais. Donc, j'étais dans une situation vraiment de quête. Et j'ai commencé à méditer simplement pour essayer de trouver un mieux-être intérieur. Et dans les méditations, ben, j'ai eu une surprise assez grande, celle de découvrir que j'étais capable de communiquer avec les défunts, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Et honnêtement, je vous cacherai pas que c'est une bonne nouvelle à l'époque. J'ai pas vu ça, pardon, comme étant une bonne nouvelle. J'ai vu ça au contraire comme étant une incompréhension totale de me dire « mais pourquoi moi ?» mon côté rationnel très fort hein, a tout de suite pris le dessus et de me dire oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ça y est, tu deviens cinglé.
Mm-hmm.
Et j'ai cherché des réponses, donc pourquoi je vivais ces expériences-là, et je me suis prise au jeu. C'est devenu vraiment une passion d'essayer de comprendre pourquoi, oui, ça m'arrivait, mais pourquoi aussi les défunts avaient besoin d'aide, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux, comment on pouvait les aider. Et bon, j'ai commencé un cheminement personnel de compréhension, oui, de la mort, mais aussi, j'oserais dire, de la vie, parce que la mort fait partie de la vie.
Mais merci. On va arrêter là pour l'instant. On va aller une courte pause. Et puis, après la pause, on revient et on va aller voir un peu quels sont ces défis-là de changer comme ça de carrière après une période de flottement aussi, qu'on se demande ce qu'on va faire. Merci.
On dirait que je suis déjà venu ici. On dirait que j'ai déjà tout vu comme c'est là. Il fait jour le jour, il fait noir le soir. Chez vous c'est tout à fait comme chez moi. Deux fois le tour du monde, cent fois le tour de soi, pour en arriver où on en arrive. Chez vous c'est tout à fait comme chez moi. Le monde est parallèle. Le monde est parallèle. On divague sous les mêmes étoiles, on arrive au même port. Un monde de différence, le monde est en instance de divorce. Assis sur la même roche, poussé vers le même soleil, tant qu'à faire le même voyage, vu qu'on est pareil, faisons-le ensemble. Contre moi pour voir le monde est parallèle. Le monde est parallèle.
C'était Jean-Pierre Ferland, Le monde est parallèle. Qui est un excellent thème pour nous ramener à Sylvie Ouellette. Donc Sylvie, on a parlé de vous dans la première partie, c'est-à-dire votre vie antérieure. Mais maintenant, j'aimerais savoir cette vie-ci, en fait, cette nouvelle carrière. Est-ce que vous voyez un lien avec ce que vous avez fait avant et maintenant?
Oui, totalement. Pour moi, mon parcours est tellement bien dessiné. C'est-à-dire que le fait d'avoir passé en droit comme ça me donne une formation très critique hein, dans le droit. C'est un domaine où on doit vraiment regarder les choses le plus objectivement possible. C'est ça à quoi on est formé. Donc, quand je me retrouve dans le domaine de la médiumnité, ça me permet d'avoir ce regard objectif sur les choses, ou à tout le moins le plus objectif possible, puisque c'est la médiumnité, c'est quand même quelque chose qui est intime et personnel. Donc, c'est une réalité qui est beaucoup plus subjective qu'objective.
Mm-hmm.
Et comment on peut arriver à l'expliquer pour permettre au message d'être le plus universel possible, mais c'est justement en essayant de tendre vers l'objectivité. Donc, toute ma formation m'aide à faire de la recherche, à essayer de comprendre les phénomènes, pas seulement à partir de mon point de vue, mais également à partir de la science, par exemple, de la philosophie, des religions, et de chercher à voir les points communs pour en avoir une vision la plus objective possible.
Et de quelle façon vous avez commencé à pratiquer cette carrière? Parce que ça n'a pas dû être évident. On commence où? On fait quoi? Est-ce qu'on fait des consultations à la maison? Est-ce qu'on commence par écrire un livre ou on offre des conférences?
Ouais. Moi, je n'ai jamais eu l'intention d'en faire un travail. Et c'est ce qui est le plus drôle parce que on m'aurait dit que j'allais devenir un médium qui en vit. J'aurais jamais cru ça jamais. C'est une amie, en fait, à qui j'avais parlé de quelques expériences que j'avais eues. Et qui m'a dit, Sylvie, écoute, il faut que tu écrives un livre. Et moi, je suis partie à rire quand elle m'a dit ça. Je dis jamais, je vais écrire un livre, j'ai 3-4 histoires, on fait pas un livre avec ça. Et cette amie-là m'a talonnée pendant un an et demi. Chaque fois que je la voyais, elle me dit, Sylvie, on me dit qu'il faut que tu écrives, parce qu'elle aussi, elle était médium.
Mmh.
Et elle me disait, on me dit qu'il faut que tu écrives. Et moi, je disais, mais non. Et puis, ben un jour, moi, j'avais fait le choix, quand mes enfants étaient petits, de rester à la maison majoritairement avec eux et d'enseigner à temps partiel. Et donc, quand mon plus jeune est rentré à la maternelle, bon, je me suis dit, bon, si j'ai pas beaucoup de contrats d'enseignement, ben je vais écrire.
Et quel était ce premier livre?
Il nous parle, entendons-nous, donc... C'est celui que j'ai commencé à écrire. Et dès que j'ai eu commencé à écrire, tous mes contrats d'enseignement se sont annulés.
Ah bon?
Alors, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'écrive.
Oui.
Donc, je me suis dédiée à ce projet-là, mais sans jamais avoir l'idée d'être publiée. C'est-à-dire que j'écrivais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'écrive un livre, mais ça s'arrêtait là, l'histoire.
Mmh.
Et je l'ai présenté, mais vraiment sans aucune attente, à un éditeur. Et à ma grande surprise, il l'a accepté.
OK.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, avec le livre, à donner quelques conférences et puis des ateliers. Puis bon, un deuxième livre est venu par la suite, et etc. Donc, ça fait maintenant presque une vingtaine d'années là, que je fais ce travail-là.
Superbe. Et vous n'êtes pas seulement connu qu'au Québec, vous êtes aussi connu en France et un peu partout dans en Europe française.
Oui, depuis plusieurs années maintenant, je travaille beaucoup en Europe à donner des conférences, des ateliers. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir voyager beaucoup avec le travail.
D'accord. Et est-ce que vous êtes toujours en formation continue, je crois? Vous lisez, vous assistez et vous offrez aussi des conférences, des congrès. Vous êtes toujours en train de vous renouveler.
Oui, et je dirais que là aussi, c'est pas un choix, c'est-à-dire que les thèmes s'impose à moi, que ce soit les livres ou des nouvelles conférences ou ateliers. Je peux recevoir, mais vraiment sous forme intuitive, le thème et je sais à ce moment-là que je dois parler de ce sujet-là. Parfois, je le connais pas. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, je dois me former pour être capable de pouvoir en parler. Mais aussi, bon, le fait que je sois médium, je reçois énormément d'informations par ce biais-là quand j'écris ou quand je prépare mes conférences et ateliers. Donc, la formation, elle se fait pas seulement au niveau physique, à lire des livres ou à suivre des formations, mais aussi par les informations que je peux recevoir.
Et dites-moi, est-ce que vous croyez que votre carrière va se terminer, en fait, avec la médiumnité ou il va y avoir autre chose après pour vous?
C'est une excellente question. La médiumnité m'a appris une chose, à se laisser surprendre. Ce que je n'arrivais pas à faire dans ma vie, j'étais vraiment très prévisible.
Mm-hmm.
Et la médiumnité, bon, comme je vous disais, ça fait une vingtaine d'années. Et pendant les premières années, j'avais vraiment le besoin de savoir où est-ce que je m'en allais, puis de poser mes pierres, mais bien confortablement, en disant oh, « ça y est, je sais c'est quoi, dans quelle direction je m'en vais ». Et bon, mais à chaque fois, j'ai été surprise que ça m'amenait, mais pas du tout là où je pensais aller.
Mm-hmm.
Par exemple, l'Europe, jamais j'aurais pensé aller travailler là-bas et la vie m'a amenée là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je n'en sais rien à cette question-là. Peut-être que ce sera ça jusqu'à la fin de mes jours. Et si c'est le cas, je m'en réjouis parce que c'est une passion. Mais je sais aussi, et je m'en réjouis tout autant, que si c'est pas ça, ben il y a d'autres choses d'heureux que je vais découvrir.
c'est la beauté d'être médium, c'est-à-dire on se laisse guider sans appréhension, sans peur, sans angoisse, c'est-à-dire on s'offre à ce qui se présente à nous. Mm-hmm. Oui.
Ouais.
Et c'est un peu notre mission de vie, ce qui m'amène à votre dernier ouvrage qui est sur la mission de vie.
Oui. Oui, c'est ça. C'est moi, pour moi, la mission de vie, hein, c'est d'apprendre à se laisser guider, c'est de suivre justement le chemin de notre intuition plutôt que l'enseignement plutôt cartésien qu'on nous a appris, c'est-à-dire planifier, structurer, tout mettre dans des cases et s'enfermer dans des cases. La vie, hein, elle est complètement mouvement, complètement souplesse.
Oui.
Donc, notre mission de vie, c'est d'être comme le roseau, hein, de se laisser porter par les énergies. Et là, ça ne veut pas dire d'être comme une poule pas de tête,
oui,
et d'aller n'importe où. Mais ça veut dire justement d'apprendre à lire notre intuition et de savoir quand elle nous dit quelque chose d'important versus quand c'est notre tête qui nous maintient dans des peurs ou dans des limitations.
Ben, je vous remercie beaucoup, Sylvie Ouellette. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Écoutez, on peut toujours avoir plus d'informations sur votre site Internet qui est sylvieouellette.ca.
Oui, tout à
D'accord.
fait.
D'accord. Je vous remercie infiniment.
Merci également, Marthe. Ça a été un très, très bel échange.
Merci. Un immense merci à mes invités en studio, Marie-Josée Blanchard, présidente éditrice de Performance Édition, Caroline Lalande, présidente de Mosaïque, et Sylvie Ouellette par téléphone, auteure, formatrice, conférencière et médium. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Marie-Claire Blais. Rien n'est plus terrible qu'une vie qui s'écoule dans le regret. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit À la semaine prochaine.